ça, les premières trois questions viennent de Goma. Martha, est-ce que tu peux les organiser?
Oui, merci, Carlos. On va commencer avec Patrick de
B1.
B1, ok.
Oui, moi, c'est Patrick Saloua, correspondant de B1 Télévision ici à Goma. J'aimerais poser ma question au général Santos Cruz par rapport aux affrontements qu'il y a eu ce matin dans les territoires de Nyiragongo, du côté de Bumba, où on nous signale qu'il y a eu des affrontements entre l'armée rwandaise et les FARDC. Est-ce que la MONUSCO est informée? Et si la MONUSCO est informée, quel est le bilan?
Merci beaucoup pour la question. What we have along the border, some points where the border is not so clear.
Nous avons sur la frontière entre la RDC et le Rwanda des endroits où la frontière n'est pas clairement définie.
And in these points, the troops are very close.
À ces endroits, les troupes des deux pays sont très très proches.
We have the information that today in the morning we have some problems. But we don't know exactly what's the dimension of the problem.
Nous savons que ce matin, il y a eu un incident qui nous a été rapporté, mais nous ignorons la gravité de l'incident.
At this moment, the information I have here is that the situation is calm.
Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que la situation est calme.
And then now we have time to investigate, to know more about what happened today in the morning.
Puisque la situation est revenue au calme, nous allons donc pouvoir tranquillement nous informer, mener des investigations pour savoir exactement la nature de cet incident.
And I hope that this people will not exploit the situation and that we return to the normality very quick.
J'espère, je formule le vœu que cet incident est un incident mineur et qu'il ne sera pas exploité pour d'autres problèmes ultérieurs.
Oui, seconde question, c'est Otans, parce qu'il s'agit de gender. Otans de Digital Congo.
Merci beaucoup, Madame Martha, pour la parole. Monsieur le représentant spécial, adjoint, nous avons vu l'appui de la MONUSCO au processus de reddition des FDLR que vous avez même encouragé sur terrain. Comme la communauté internationale qui avait ouvert les portes et les barrières pour FDLR depuis 1994, pourquoi est-ce que ou comment est-ce que la MONUSCO ou la communauté internationale n'ouvre pas les portes directement à ces FDLR qu'ils aillent directement au Rwanda? Une autre petite préoccupation, c'est en rapport avec la route que nous voyons tout à l'heure là à côté d'ici où nous sommes, la MONUSCO est en train de construire. La population voudrait savoir, est-ce un échantillon, vu la qualité de cette route-là, est-ce qu'il y aura une meilleure qualité ou ça sera de cette façon jusque partout les tronçons concernés? Merci.
Merci de votre question. Vous savez, la présence des éléments des FDLR dans l'est de la RDC, dans la région de Kivu, est un problème beaucoup plus sérieux, beaucoup plus préoccupant que vous ne semblez le dire. Ces éléments, vous le rappelez à juste titre, sont en RDC depuis bientôt une vingtaine d'années. Ce groupe armé, qui s'est, à la suite des événements que vous connaissez à Rwanda, s'est réfugié dans l'est de la RDC, depuis 20 ans, a commis aussi des exactions dans cette partie de la RDC. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle dynamique, grâce aux efforts conjugués, grâce à la pression militaire, grâce à l'ensemble des efforts fournis par la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a donné aujourd'hui, que ce soit à travers l'accord cadre qui a été signé à Addis Ababa, que ce soit par la nomination des envoyés spéciaux, que ce soit par la brigade d'intervention, que ce soit par le renforcement du mandat de la MONUSCO, aujourd'hui on a un environnement qui peut nous permettre d'espérer de régler cette question. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous avons cette déclaration de désarmement volontaire des FDLR. Et comme vous le savez, vous avez été vous-même témoin, la mission, la MONUSCO, au nom de la communauté internationale et du Conseil de sécurité, a accueilli favorablement cette offre de désarmement volontaire. Nous avons déclaré comme priorité numéro 1 de la MONUSCO. Nous avons mobilisé nos forces, nos logistiques, nos hélicoptères, nos camions, nos experts. Nous avons mis en place 1400, dès que nous avons été saisis, 1400 matelas, 1400 draps, plus de 10 000 litres d'eau potable, des batteries de cuisine, des vivres pour pouvoir accueillir, que ce soit au sud Kivu, au nord Kivu, l'ensemble des éléments FDLR qui vont manifester le désir de se rendre. L'opération a commencé, nous sommes en train de soutenir, alors ça peut être éventuellement, pourquoi pas, le début d'une solution de ce problème. Mais croyez-moi, c'est un problème qui a des implications politiques, sécuritaires, régionales et qui mérite un traitement avec beaucoup plus d'attention que vous nous parlez d'ouvrir les portes pour qu'on ressorte comme si on était dans une cour de récréation, qu'il fallait simplement, il y avait une porte à ouvrir pour que les gens partent. Non, la problématique, parce qu'il s'agit d'une véritable problématique, est beaucoup plus politique que vous ne le pensez et mérite des efforts conjugués. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de voir que, y compris la SADC, est en train de s'investir pour que nous puissions trouver une solution à ce problème qui n'a que trop duré parce que depuis 20 ans, il continue à empoisonner la stabilité, la sécurité dans la région des Grands Lacs.
La route, c'est un problème.
En ce qui concerne la route, comme vous le savez, la MONUSCO s'est engagée vers ces routes. Maintenant, il s'agit des travaux qui ont commencé, que ce soit au niveau de la route, c'est pas vous faites référence à l'aéroport ou bien ici, devant les locaux, mais l'un dans l'autre, vous allez voir, lorsque les travaux auront commencé, la qualité du travail qui va être fait, la qualité de cette route qui va être construite pour la ville de Goma, vous serez invité à l'inauguration et pourrez à ce moment manifester, exprimer votre appréciation des travaux qui auront été faits.
Une troisième question.
Ok, c'est Albert Tunalabo du Peuple Souverain.
Merci beaucoup. Moi, c'est Albert Toulinabo du journal Le Peuple Souverain. Ma question s'adresse au général Abdallah Wakif ou au général Santos Cruz. Des informations à notre possession nous renseignent qu'un drone a été abattu au niveau de Niabiondo dans les territoires de Masisi la semaine passée. Pouvez-vous, mon général, infirmer ou confirmer cette information? Et s'il s'avérait vrai, pourquoi le silence de la part de la ministre? Et où en est-on avec le résultat de l'enquête du premier drone qui avait commis un accident ici à Goma?
Très bien, je crois que votre question, nous allons donner une réponse très rapide et très claire et nette. Aucun de nos drones n'a été abattu. Vous êtes invité à aller à l'aéroport, vous allez le voir, ils sont en train de voler, ni à Niabiondo, ni ailleurs. Au niveau de l'accident dont vous faites état, qui s'est déroulé en plein jour sur l'aéroport de Goma, c'est un incident, comme il peut arriver dans ce genre de situation, mais il n'y a aucune main extérieure, il n'y a aucune... c'est un accident pour des raisons techniques. L'enquête a conclu à une défaillance technique, donc il n'y a pas lieu de s'extrapoler par rapport à cet incident. Je peux vous rassurer.
Merci. On revient maintenant à Kinshasa. On revient à Kinshasa. On va commencer ici à ma droite.
Merci. Jean-Pierre Kaimé pour RTG AFM. Question posée au général Wafi. Par rapport au FDLR, ils se rendent. On sait qu'ils seront relocalisés à Irebo, en Équateur. Voilà. La population locale craint en fait un nouveau foyer de tension de ce côté-là. Quelle est votre réaction? Ne pensez-vous pas qu'il était important qu'il soit renvoyé une fois pour toutes au Rwanda?
Général Wafi?
Oui, alors, par rapport à la question à laquelle vous faites allusion, c'est vrai que dans le plan de désarmement volontaire des FDLR, qui a été partagé par les autorités de la RDC avec la MONUSCO, il a été convenu que la localité de Irebu, dans la province de l'Équateur, sera la localité où ces éléments vont être temporairement relocalisé en attendant qu'il y ait un pays d'accueil pour que ces éléments-là s'en aillent. Je voudrais rappeler je voudrais rappeler à ce stade des choses, je crois qu'il est extrêmement important pour l'information de tout le monde de noter que dans le processus de désarmement volontaire, tous les éléments FDLR qui vont manifester le désir de rentrer dans leur pays, la MONUSCO va s'en chercher. Que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu, tout élément FDLR, ainsi que ses dépendants, qui va exprimer le besoin d'être rapatrié, la MONUSCO va le rapatrier, aider à son rapatriement. Je peux d'ores et déjà vous dire que les contacts que nous avons avec les autorités rwandaises, notamment la Commission nationale de rapatriement, ils n'ont aucune objection à ce que les procédures habituelles de rapatriement continuent. Maintenant, vous le savez, le rapatriement doit toujours être volontaire. Pour ceux qui ne vont pas vouloir rentrer au Rwanda, eh bien, les autorités de la RDC nous ont demandé, pour des raisons évidentes de sécurité, pour des raisons évidentes politiques, de les éloigner de la frontière pour les amener dans l'ouest de la RDC en attendant que des négociations de pourparler avec la communauté internationale, qu'on puisse trouver une terre d'accueil, qu'on puisse trouver une destination finale à ces FDLR pour qu'ils puissent quitter la RDC. Donc, pour me résumer, si ce plan venait à se matérialiser et à s'exécuter, je pense que les populations de l'Équateur de l'Urubu n'ont pas de raison de s'inquiéter puisque c'est une destination provisoire où ils rentrent au Rwanda chez eux, où on leur trouve une terre d'accueil, ils vont à l'extérieur. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire par rapport au plan que nous sommes en train de soutenir pour exécuter.
Deuxième question ici à ma droite. On continue à ma droite avant de passer à ma gauche.
Je réponds au nom de M. Moussé Medila. Je suis journaliste au journal Grand Kivu. Mes questions sont adressées au général Abdallah. Dernièrement, au sud Kivu, précisément dans le territoire de Shabunda, il y a les groupes armés, le Raia Mutombo, qui s'est rendu à Kachungu et à Lulingu. Mais chose grave, il y a des colonels. L'un s'appelle au nom de Rurimberi et l'autre Amaoro. Quand les groupes armés viennent se rendre, les deux colonels commencent à tabasser, à tracasser, à torturer les groupes armés. Alors, avec les stratégies de la MONUSCO, qu'est-ce que la MONUSCO peut faire compte tenu de ça? Deuxième question, il y a 500 aussi FDLR qui s'est rendu à partir de Mugogo. Dans le territoire, dans la territoire de Mwenga. Dans le territoire de Mwenga. Deuxièmement, après de cela, il y a... ça fait déjà deux semaines que les FDLR se trouvent dans le Mugogo avec leurs armes. Avec la faim, tout consort, ils commencent à tracasser la population. Alors, qu'est-ce que la MONUSCO peut faire compte tenu de la situation qui se passe dans la territoire de Shabunda et de Mwenga?
Alors, s'il vous plaît,
allez-y, général.
En ce qui concerne Shabunda, comme vous le savez, nous avons une présence militaire à Shabunda. Et en aucun moment il n'a été porté à notre connaissance cette information. Et comme vous le savez, nous avons des officiers qui se chargent du DDR partout pour encourager tous les groupes armés à déposer les armes. Et dès que des éléments de groupes armés manifestent le désir de déposer les armes, nous les recevons et nous veillons à ce qu'ils soient traités, en tout cas conformément aux standards internationaux, pour pouvoir justement encourager beaucoup plus de reddition de la part de ces groupes armés. Donc, je m'inscris vraiment en faux par rapport à cette information. Maintenant, en ce qui concerne les éléments FDLR qui sont rendus, qui ont des armes qui tracassent, alors là, par contre, je m'inscris en faux. Et ce que votre collègue vient de dire est faux de mieux de tout fondement et je m'inscris en faux. Il n'y a pas eu 500 éléments qui sont rendus à Kigogo, plus précisément, dans le territoire de Mwenga. Il y a eu une cérémonie au cours de laquelle, officiellement, des éléments des FDLR, dont 83 combattants, ont remis 83 armes avec 234 dépendants. Cette cérémonie s'est déroulée aussi bien en présence
des ambassadeurs du pays de la SADC accrédités à Kinshasa que nous avons amenés à Kigogo, mais aussi une délégation de l'organe de paix, de sécurité et de coopération de la SADC qui est venue en mission pour pouvoir constater le début de ce désarmement volontaire. Ils étaient aussi présents. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Chisambo, était présent. Le DG de l'ANR, M. Caleb Mouton, était présent. Le chef de bureau de la MONUSCO était présent, avec une couverture médiatique très importante. Donc, ces éléments, aujourd'hui, sont en train d'être acheminés à Walungu pour que nous puissions procéder au triage, au screening, pour voir parmi eux ceux qui souhaiteraient rentrer chez eux au Rwanda, et nous allons les amener, les rapatrier dans leur pays. Ceux qui vont demander à ne pas rentrer, nous allons, à partir de Walungu, les amener à Kavumu, à l'aéroport de Kavumu, pour pouvoir les transporter à Kisangani, pour que le gouvernement prenne le relais et les transporter à Manaka, Irebu, en attendant qu'ils puissent poursuivre leur chemin vers leur terre d'accueil une fois que cela sera déterminé. Voilà la réalité. Et ces populations, ces éléments de FDLR ont un soutien logistique de la MONUSCO. Nous avons mis des tentes, nous avons mis des couvertures, ils ont des vivres, ils ont de l'eau, ils n'ont tracassé personne et personne ne se plaint. Donc je crois qu'il faut arrêter de vouloir jeter le discrédit et l'opprobre sur ce processus, puisque nous donnons tout le soutien et nous continuerons à soutenir le processus parce que nous croyons que c'est un très bon moyen de pouvoir régler définitivement cette question et donc de contribuer à ramener la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs.
Merci. On a beaucoup de sollicitations ici à Kinshasa. On va donner la parole maintenant à une dame.
Merci. C'est Gisèle Etoko de CCTV. Ma question, c'est par rapport à la résolution 2098 des Nations Unies, dans laquelle les Nations Unies doivent, la MONUSCO doit renforcer sa présence à l'est de la RDC et puis réduire son effectif. Les informations à notre possession, nous apprenons que les employés congolais de la MONUSCO réclament leur indemnité des sorties. Alors à Kindu, il y a même des employés qui ont manifesté lorsque la MONUSCO a voulu récupérer, enlever les équipements. Que dites-vous par rapport à cette information?
C'est une question au général Wafi. Est-ce que vous pouvez prendre cette question, général?
Je prends toutes les questions, moi. Je vais répondre à toutes les questions. Non, absolument. Vous le savez, dans le cadre, depuis la résolution 2098 et puis la nouvelle résolution qui gouverne la MONUSCO, le Conseil de sécurité a demandé de restructurer la mission, d'accroître la présence des sections civiles à l'est du pays, puisque, comme vous le savez, la force militaire est déjà déployée à près de 95% à l'est, c'est-à-dire dans les zones où il y a encore des conflits, où il y a encore des groupes armés, pour pouvoir aider à stabiliser, aider à protéger, soit en neutralisant ces groupes armés, ou en tout cas en obtenant leur désarmement volontaire. Voilà un peu le but de l'opération. Cette opération a commencé et aujourd'hui, vous avez constaté, particulièrement ceux qui sont avec nous ici à Goma, que moi-même, je réside aujourd'hui à Goma, je suis basé à Goma, avec toutes ces sections civiles que nous avons apportées, pour avoir plus de présence dans les différents territoires affectés, pas seulement dans la ville de Goma, mais à Masisi, à Walikale, à Rutshuru, à Beni, demain à Lubero, et pourquoi pas dans les autres provinces à l'est, pas seulement le Nord Kivu, y compris Uvira, Kalemie, et pourquoi pas Dungu et Mambasa et dans d'autres localités du district de l'Ituri. Et dans le cadre donc de cette restructuration, naturellement, nous avons diminué des effectifs pour mieux recadrer les besoins opérationnels de la mission avec les ressources budgétaires. Mais vous le savez, la MONUSCO, faut-il le rappeler, est une mission de maintien de la paix. Elle n'a pas vocation à être éternelle. Il faut que la MONUSCO quitte la RDC. Il faut que la MONUSCO parte de la RDC. Si la MONUSCO reste, alors la MONUSCO aura échoué. C'est pour cela que le Conseil de sécurité nous demande de mettre en place un planning de sortie, une stratégie de sortie. Mais avant de sortir, il y a des missions à faire. Il faut que ces groupes armés disparaissent. Il faut que la brigade d'intervention, la force de la MONUSCO, aide les FRDC à lutter contre les ADF aujourd'hui, à lutter contre les FDLR, à lutter contre tous les groupes armés et à pouvoir stabiliser et restaurer l'autorité de l'État congolais pour que nous puissions partir.
tout ce qui est en train de se faire, c'est par rapport à cette stratégie. Alors, bien sûr, lorsque la MONUSCO était dans les provinces de l'Ouest, on disait, mais qu'est-ce que vous faites ici? Allez-y, à Chabunda, allez-y, à Walikale, allez-y. C'est là où il y a le conflit. Lorsque nous y venons, on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Retournez. Alors, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Par rapport aux staffs nationaux, y compris les staffs congolais, qui pour certains ont rendu d'éminents services à la MONUSCO, qui ont travaillé pour certains depuis 10 ans, depuis 12 ans, si aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie de retrait de la mission, nous devrons nous séparer de ces cadres-là, de ces employés-là, la mission est en train de réfléchir pour voir vraiment quel traitement apporter pour pouvoir les soutenir dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs, mais aussi dans la limite de ce qui nous est alloué comme budget et par rapport aux dispositions statutaires des Nations Unies. Donc, c'est un exercice difficile parce que lorsque, à la suite d'une restructuration, vous devez vous séparer parce que cela est devenu incontournable avec des collaborateurs, alors des efforts sont en train d'être faits. Qui pour le placer auprès de la communauté diplomatique? Qui pour pouvoir le trouver des emplois auprès des autres agences du système des Nations Unies, des agences spécialisées? Qui pour pouvoir accroître les indemnités à leur donner? Mais dans tous les cas, le représentant spécial, Martin Kobler, a pris l'engagement de ne pas laisser tomber ses staffs et de se battre lui-même, de s'engager pour pouvoir défendre leurs intérêts. Nous sommes en train de réfléchir avec New York. Et croyez-moi, nous sommes en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir nous battre et leur obtenir le maximum d'indemnité parce que nous avons apprécié le travail qu'ils ont fait et nous pensons qu'il faut continuer à les soutenir pour pouvoir avoir après une vie décente et pouvoir, pourquoi pas, avoir de l'emploi auprès des autres structures, que ce soit diplomatique ou du système des Nations Unies.
Merci, on retourne à Goma, une série de trois questions, mais une question par journaliste, Martin.
Oui, Reuters, Kenny de Reuters.
Parle le même là.
Moi je m'appelle Kenny, je suis de l'agence Reuters. Là je m'adresse au représentant spécial adjoint. Au sein de la CIRG, nous avons les comités conjoints de vérification. Ils sont là depuis un certain temps. Tous les jours, la société civile fait, parle des provocations, selon eux, que les Rwandais font contre les Congos. Tous les jours, vous recevez des rapports, vous dites, faites des enquêtes. Et aujourd'hui, il y a eu affrontement. Maintenant, ces enquêtes ou les rapports que vous recevez, à quoi ça vous sert? Je pense, mieux vaut prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une situation très grave pour après dire, nous condamnons. Alors qu'aujourd'hui, il y a lieu de faire en sorte que demain vous puissiez dire on a évité les pires.
Merci pour votre question, mais je crois que vous vous trompez de cible. Moi, je représente les Nations Unies, pas la conférence internationale de la région des Grands Lacs. IGBN ne rapporte pas à moi. C'est un organe, vous avez raison, qui a été mis en place par les pays de la conférence international de la région des Grands Lacs, et avec des termes de référence, avec une mission, avec un mandat bien donné, à savoir justement faire des investigations dans le cadre de ce genre d'incident, dont celui qui s'est passé aujourd'hui. La MONUSCO même a demandé à faire partie de ce mécanisme de vérification. Nous avons proposé de soutenir, en mettant notre logistique, pour pouvoir aider rapidement à faire les investigations. Mais monsieur, vous ne rendez pas responsable de tous les maux de la terre, y compris de l'inefficacité du mécanisme et conjoint de vérification. Ils sont là, ils veulent faire les enquêtes, ils n'ont qu'à faire les enquêtes. Mais je suis d'accord avec vous, c'est leur mission, et nous-mêmes, nous les engageons à se saisir tout de suite, à aller faire ces investigations. Mais s'ils ne le font pas, nous n'avons aucun moyen de les y obliger.
Jérémy,
Jérémy Kam pour Radio Kaïm. Moi, j'ai une crainte, d'autant plus que les femmes du Nord Kivu ont refusé que le vote de l'air soit cantonné ici. À l'épater, même moi, les députés sont contre. Alors, si le peuple congolais arrivait à rejeter en bloc cette option, quelle autre option que les Nations Unies a envisagé si le peuple congolais comprenait cette option de cantonner
Écoutez, comme je vous l'ai dit, ce plan ainsi que le choix de la localité de Irébou a été fait par les autorités gouvernementales de la RDC.
nous avons été invités à soutenir logiquement cette opération de désarmement volontaire. Ce que nous faisons à la grande satisfaction des autorités. Maintenant, je peux comprendre que par rapport à tout ce qui entoure ce groupe armé, que les populations de l'Équateur soient réticentes ou qu'elles soient préoccupées par leur relocalisation encore temporaire. En attendant, comme je l'ai dit, qu'ils trouvent une terre d'accueil ailleurs. Mais encore une fois, je comprends leurs préoccupations, je comprends leurs craintes, mais la question, je ne peux pas vous donner une réponse à cela, parce que de toutes les façons, en attendant qu'on trouve une solution définitive, il faudra bien une solution provisoire. Pourquoi cette relocalisation? Je vous l'ai expliqué. Ces éléments de l'air aujourd'hui, si on les regroupait par exemple ici dans la ville de Goma, ce serait pratiquement encore d'autres problèmes qui vont se poser, y compris avec certains pays voisins. C'est pour cela que la RDC a pris la sage décision de les éloigner de la frontière pour éviter tout prétexte à ce que leur présence puisse susciter. Mais encore une fois, c'est une opération de relocalisation temporaire en attendant un pays d'accueil définitif.
Papio Kito. Oui, moi c'est Papio Kito du journal Écho d'Opinion. Ma question se l'adresse à Paul Madidi de la CPI. On a l'opinion congolaise remarque que les procès de la CPI sont des procès internels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fin. Aujourd'hui, le dossier Jean-Pierre Bemba, apparemment, il n'y a pas de suite. Pour le cas des indemnisations que la CPI doit peut-être prendre en charge, est-ce qu'on va indemniser seulement les amis de l'Ituri ou c'est partout là où il y a eu des bavures? Merci.
Merci pour la question. En ce qui concerne les indemnisations, comme vous dites, les réparations, c'est le mot technique, les réparations interviennent après jugement, c'est-à-dire après les procès. Il n'y a eu pour l'instant que deux condamnations après procès, M. Lubanga et Germain Katanga, donc il y aura des décisions qu'on va prendre en termes de réparation au profit des victimes. Mais à côté des réparations, il y a ce qu'on appelle le fonds au profit des victimes, qui est en train de travailler, notamment sur des projets en Ituri, mais également sur des projets que d'autres structures à l'Est peuvent lui soumettre. Les procès qui sont longs, c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire que c'est normal, vu les procédures qui sont très longues. Mais il n'y a personne qui a envie de voir ces procédures ou ces procès s'allonger. On ne parle pas ici dans ces procès des vols de cacahuètes au coin de la rue. Il s'agit quand même des milliers de personnes qui sont victimes. Ça prend du temps. Il faut donner le temps à chaque partie de se préparer convenablement au procès. Voilà pourquoi ça prend du temps. Mais les juges, les faits, les choses sont faites de manière à ce que les accusés voient leur procès ne pas durer.
Merci beaucoup. On revient maintenant à Kinshasa. On est presque à la fin, mais on a le temps, je crois, pour une ou deux questions.
Patrick Mbanga pour l'expression. Je pose la première question à Paul Madidi concernant le communiqué de Women Rights Watch. Je ne sais pas si vous avez eu la copie. Concernant d'autres personnes qui ont commis des crimes à l'Est, qui sont encore à liberté. Quel est le point de vue de la Cour pénale internationale? Et je reviens par...
Par journaliste.
Merci beaucoup.
Une question.
En ce qui concerne d'autres poursuites, comme je l'ai toujours dit, des enquêtes en ce qui concerne les allégations des crimes, aussi bien dans le Nord Kivu que le Sud Kivu, sont en cours. Je ne peux pas parler au nom du procureur qui, comme vous le savez, travaille de manière indépendante, va au moment opportun, quand il aura réuni des informations suffisantes, il va demander les mandats d'arrêt pour ces personnes qui porteraient une responsabilité dans les crimes commis dans le Kivu. Mais un travail se fait, un travail de fond. Qui prend du temps, là aussi ça prend du temps parce que il ne faut pas amener des éléments que le premier accusé va balayer de revers de main.
Une question seulement.
Une question, c'est au général Abdallah Rafi. Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes satisfait de la reddition qui a été faite? Parce que sur 1400 rebelles attendus, on en a enregistré que moins de 10%. Alors, est-ce que vous êtes satisfait? Et puis, ces FDLR conditionnent leur retour, donc leur reddition totale, par l'organisation du dialogue inter-rwandais, facilité par la communauté internationale. Comment pensez-vous concilier tout ceci pour obtenir la reddition totale?
Alors, vous savez, au stade actuel des choses, pour résumer cette opération de désarmement volontaire, il vous souviendra que c'est le mouvement même des FDLR qui a pris sur lui de faire une déclaration à la presse, ensuite d'inviter des hautes personnalités et des organisations internationales pour venir assister au début de leur désarmement volontaire. Les autorités de la RDC les ont approchés pour mettre en place les modalités pratiques de ce désarmement volontaire. Compte tenu du déploiement de la MONUSCO et des moyens de la MONUSCO, c'est tout naturellement que les autorités de la RDC ont demandé à la mission de soutenir cette opération de désarmement volontaire parce que cela rentre dans le cadre de notre mandat de désarmer les groupes, tous les groupes armés. Et donc, aujourd'hui, vous avez au nord Kivu, au sud Kivu, le bilan de ce qui s'est passé depuis le 30 mai 2014. Y compris par ce qui s'est produit le lundi 9 juin à Kigogo, dans le sud Kivu. L'un dans l'autre, nous pouvons dire que c'est un bon début, mais encore une fois, ce que je peux vous dire, c'est la position des Nations Unies par rapport à cette affaire. La première chose que nous demandons, nous saluons le début de cette opération. Nous encourageons les FDLR à continuer ce désarmement volontaire. Nous les engageons à se rendre et à accepter le plan que le gouvernement a mis en place en consultation avec eux. Nous demandons, y compris à leur commandement, de se rendre. Que ceux qui sont recherchés par les juridictions internationales aillent y répondre. Ou par les juridictions nationales au niveau de la RDC, qu'ils aillent se présenter pour pouvoir répondre de ce qui leur est reproché devant la justice. Ceux qui veulent se rendre libre à eux de rentrer dans leur pays, nous allons les supporter, les soutenir pour qu'ils soient rapatriés dans leur pays. Ceux d'entre eux qui vont le refuser et qui vont, d'un commun accord avec les autorités de la RDC, accepter d'être relocalisés à l'ouest en attendant qu'il y ait un pays d'accueil pour eux, pour qu'ils puissent aller. Voilà la position des Nations Unies. Donc, une fois de plus, nous saluons, nous considérons que c'est un très bon début et nous soutenons, nous allons continuer à soutenir, mais cette opération doit se dérouler dans des délais acceptables et raisonnables. Ça, ceux de leur leadership doivent se présenter devant les juridictions pour répondre. Ceci n'est pas négociable. Merci.
Merci beaucoup. Ainsi prend fin cette conférence de presse. Merci beaucoup aux auditeurs de Radio Capi qui nous ont suivis et à vous qui avez fait le déplacement. À la semaine prochaine.
S'il vous plaît, chers collègues, on va accompagner le général Waski. Nous avons...